Radio Okapi. Journal présenté par Noëlla Luzi Tukabambi.
Rencontre hier à Genève en Suisse entre la première ministre de la RDC et le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge. Les échanges entre Judith Suminois et Maxime Prévost ont tourné autour des décisions de l'Union européenne face à l'agression du Rwanda dans l'est de la RDC, ainsi que sur la situation sécuritaire globale dans l'est du pays. La plateforme politique Lamuka accuse des jeunes présumés de la force du progrès de briser l'élan de la cohésion nationale. Le secrétaire exécutif de ce regroupement politique accuse ces jeunes proches du parti présidentiel d'avoir attaqué les membres du parti Action pour la démocratie et le développement au Congo ADD le week-end dernier à Kingabwa, commune de Limété. Consola Taburendo est l'invité de ce journal et les spécialistes programmes chargés de la coordination de bureau terrain de l'UNICEF en RDC. Elle va parler de la décision de cette agence de l'ONU de s'installer physiquement au Maniema pour assister les enfants vulnérables. Bonjour à tous. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC était au centre de la rencontre hier à Genève en Suisse entre la première ministre Judith Suminois et Maxime Prévost, vice-premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères. Les décisions de l'Union européenne face à l'agression du Rwanda dans l'est de la RDC ont également été évoquées. On écoute Maxime Prévost dans cet extrait proposé par Alain Hirung.
Très clairement, nous avions la Belgique et la France ensemble porté une démarche pour qu'il y ait un paquet de sanctions plus conséquent qui soit soumis à l'approbation des 27 États de l'Union européenne. C'était ce lundi. Avec mes collègues affaires étrangères, il y a eu une grande convergence de vues et une volonté claire de donner un signal politique signalant que des sanctions allaient être portées sur le Rwanda. Des volontés qui concernent à la fois la suspension potentielle du traité concernant les minerais, également des sanctions individuelle à l'égard de certaines personnes, notamment des forces armées. La volonté aussi de pouvoir suspendre le dialogue de sécurité et politique avec le Rwanda. Le signal, en tout cas, a été acquis. Tout le monde a pu converger là-dessus. La mise en œuvre est décalée de quelques jours, puisqu'il a été souhaité d'attendre aussi de voir comment sur le terrain la situation, notamment quant au cessez-le-feu, allait évoluer, puisqu'une réunion est prévue à Harare fin de cette semaine.
En marge de la 58e session du Conseil des droits de l'homme, la chef du gouvernement congolais a plaidé pour l'ouverture d'un couloir humanitaire en faveur des victimes de l'occupation rwandaise dans l'est de la RDC. Elle a aussi rencontré plusieurs personnalités, dont le secrétaire général de l'ONU. Antonio Guterres a mis en garde contre une régionalisation du conflit si des mesures immédiates ne sont pas prises. Le Royaume-Uni a de son côté annoncé une série de mesures contre le Rwanda à la suite de la situation sécuritaire qui sévit dans l'est du pays. Le Bureau des Affaires étrangères du Commonwealth et du Développement a fait cette annonce dans un communiqué parvenu hier à Radio Okapi. Parmi ces mesures, Londres entend limiter les activités de promotion commerciale avec le Rwanda jusqu'à ce que des progrès significatifs soient réalisés sur le terrain des hostilités. Le condensé de ce communiqué avec vous, Blaise Ndongala Mayanda.
Dans ce communiqué, le Royaume-Uni annonce plusieurs autres mesures contre le Rwanda jusqu'à son engagement significatif dans les processus de paix menés par l'Afrique et au retrait de ses militaires du territoire congolais. Il a cité entre autres sa cessation à la participation des hauts niveaux aux événements organisés par les gouvernements du Rwanda, la limitation des activités de promotion commerciale et la suspension de son aide financière bilatérale directe au gouvernement rwandais et autres. Selon les mêmes communiqués, Londres juge inacceptable que Kigali cherche à résoudre ses problèmes militairement. Cependant, il préconise une solution politique au conflit qui oppose la RDC au Rwanda. Pour rappel, les ministres des Affaires étrangères britanniques ont tour à tour échangé le week-end dernier avec le président Tshisekedi à Kinshasa et le président Kagame à Kigali. Au cours de ces échanges, ces diplomates avaient rappelé à ses interlocuteurs la nécessité d'une cessation immédiate des hostilités.
À Kinshasa, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, en visite de 48 heures en RDC, a rencontré hier certaines personnalités, dont le président de la République, la chef de la MONUSCO et le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Blaise Makassi.
Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu à la Cité de l'Union africaine le procureur de la CPI. La crise sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays était particulièrement au centre de leurs discussions. À cette occasion, le procureur de la CPI a lancé un appel à témoins sur les atrocités perpétrées dans les zones sous occupation de l'armée rwandaise et des rebelles du M23. Je le cite, « Ceux qui ont des preuves sur des crimes de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité sont priés de les envoyer sur le site de la CPI », a-t-il déclaré. Pour Karim Khan, la population congolaise a droit à la protection et à la justice. Il assure que la CPI, qui a signé un protocole d'accord en 2023 avec la RDC, suit de près la situation qui prévaut dans l'Est. À ce sujet, une conférence internationale sur la paix, la sécurité et la justice devrait avoir lieu en avril prochain à Kinshasa. Cette conférence sera chargée d'examiner les causes de l'instabilité dans la partie orientale du pays, a précisé le chargé de suivi de la coopération RDC-CPI, Taylor Lubanga. S'agissant de la rencontre entre le procureur de la CPI et la chef de la MONUSCO Bintou Keïta, le deux personnalités ont estimé qu'une action collective est nécessaire pour favoriser une approche holistique de la responsabilité en RDC. Avec le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamouleta, l'échange entre les deux personnalités a tourné autour du suivi que la CPI assure des crimes commis dans l'est de la RDC par l'armée rwandaise et le M23.
Notez que le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamouleta, a rassuré le procureur de la CPI sur la disponibilité du pouvoir judiciaire congolais pour l'accompagner dans sa noble mission, celle de rendre justice aux victimes des graves violations des droits de l'homme dans la partie est de la RDC. Le vice-premier ministre de l'Intérieur affirme que désormais la tenue régulière des réunions de sécurité avec la participation des responsables des services et de la population, notamment lors des réunions du comité de sécurité élargi, est une obligation. Jacquemain Chabani l'a dit hier à Kinshasa lors du lancement officiel de la vulgarisation des textes légaux sur la création, l'organisation et le fonctionnement des comités locaux et provinciaux des sécurités. Il a aussi ajouté que la rédaction des comptes rendus et leur transmission à la hiérarchie dans le délai requis feront l'objet de contrôle, de suivi et d'évaluation. On écoute les explications de Jacquemain Chabani dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Le gouvernement de la République s'est engagé à mettre sur pied une politique de défense et de sécurité fondée sur 6 fonctions stratégiques, à savoir connaître, prévenir, anticiper, dissuader, protéger et enfin intervenir. À cet effet, le décret numéro 22/44 du 6 décembre 2022 portant création, organisation et fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité a matérialisé ces principes et formalisé les bonnes pratiques de la gouvernance sécuritaire dans la gestion de la territoriale. Pour rendre effectif et efficace l'organisation des réunions de sécurité à tous les niveaux, de la province jusqu'au village, dans nos rues et avenues, avec l'implication de la population, j'ai signé en date du 4 novembre 2024 deux arrêtés portant mesures d'application du dit décret.
Selon le vice-premier ministre de l'Intérieur, la première phase a commencé avec la ville-province de Kinshasa. Près de 750 comités locaux de sécurité de 24 communes de la ville, y compris tous les chefs des quartiers, ont été outillés sur les modalités pratiques d'organisation des réunions de sécurité, l'analyse de menaces et des problèmes sécuritaires dans leur milieu de vie. Toujours à Kinshasa, 2 morts et 1 blessé. C'est le bilan d'un braquage perpétré dans la soirée de lundi dans une pharmacie à Super Lemba dans la commune de Lemba. Les auteurs présumés de cet acte criminel sont des hommes venus opérer sur des motos. C'est ce qu'a annoncé à Radio Okapi le bourgmestre de cette commune. Jean-Serge Poba lance par ailleurs un message aux autorités politico-administratives pour prendre des mesures efficaces en vue de mettre fin à ce phénomène de braquage qui prend de l'ampleur dans la capitale. Il a été joint au téléphone par Plantin Yambenga et Trio Banzé.
Oui, il y a eu braquage, évidemment. Il y a 4 hommes non autrement identifiés qui sont venus dans une pharmacie. Ils sont entrés, cambriolés, et puis ils ont tiré des balles en l'air. Ils ont tiré sur le policier qui gardait juste le bureau à côté. Et puis ils ont tiré sur un motard qui était juste à côté. Et il y a une troisième personne qui a eu une balle qui l'a touché au bras. La population garde son calme, il n'y a vraiment pas de problème. Nous sommes en train de travailler pour mettre hors d'état de nuire tous ces gens-là qui viennent pour semer le trouble, pour venir rançonner 300, 400, 500 dollars. et nous allons les arrêter et puis nous allons démanteler ces réseaux-là.
Au Nord Kivu, dans le territoire de Lubero, les rebelles des ADF sont accusés d'avoir volé des centaines de bêtes dans des fermes du secteur de Bapéré. La société civile locale dit avoir été alertée lundi par la corporation locale des fermiers du pillage de plus de 900 bêtes par ces hommes armés, ce qui constitue une énorme perte économique pour cette zone qui fait déjà face aux atrocités commises par ces rebelles. Guylaine Kassassia.
Les faits ont été monitorés depuis le 8 février dernier, mais n'ont été rendus publics que ce mardi. Plus de 918 bêtes ont été emportées par des hommes armés assimilés aux rebelles des ADF. C'était précisément dans les localités de Kitevia, Fungula Macho, Masaki et Maïba. Samuel Kaini, le président de la société civile du secteur de Bapéré, explique.
Cela constitue une grande conséquence sur le plan économique parce que à lever dans une ferme de fermiers, 81 vaches, 632 chèvres, 105 moutons et aussi plus de 100 poules qu'on a emportées à partir du 8 février 2025. Et la lettre indique que ce sont des assaillants ADF qui auraient emporté cette richesse.
Plusieurs vivres qui se trouvaient dans les champs de la population ont été détruits ou emportés également par ces rebelles des ADF. Depuis juin de l'année dernière, plus de 1000 civils ont été tués dans les secteurs de Bapéré par les ADF, indique la société civile locale. Beni, Gulen Kassassia, Radio Capi.
La plateforme politique Lamuka accuse des jeunes présumés de la Force du Progrès, identifiés comme un bras armé informel de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, de briser l'élan de la cohésion nationale. Le secrétaire exécutif de ce regroupement politique, Jean-Félix Senga, a porté cette accusation lors d'un point de presse hier à Kinshasa. Il a précisé que ces jeunes proches du parti présidentiel ont attaqué les membres du parti Action pour la démocratie et le développement au Congo, ADD Congo, alors qu'ils étaient en matinée politique le week-end dernier au quartier Kingabwa, commune de Limété. Le propos de Jean-Félix Senga sont recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
Lamuka dénonce le banditisme criant dont l'un de ses partis politiques, en l'occurrence ADD Congo du président Prince Epengé, a été victime de la part de la Force du Progrès. Au moment où Lamuka est, d'une part, préoccupé par la crise multidimensionnelle qui sévit actuellement en République démocratique du Congo, avec la chute de Goma et de Bukavu, c'est en ce moment crucial où l'existence de l'État se trouve menacée. Que l'UDPS, au travers des Forces du Progrès, s'évertue à casser tout élan de cohésion et d'unité nationale pourtant réclamée par le peuple congolais. Lamuka fustige le fait qu'en pleine matinée politique, les membres et cadres de l'ADD Congo aient été sauvagement attaqués à l'arme blanche, 24 militants de l'ADD Congo grièvement blessés et hospitalisés. Le président de la fédération ADD Congo, Mohamba, porté disparu.
L'école doctorale régionale Walhuth de Kinshasa a ouvert ses portes hier au cours d'une cérémonie organisée à l'amphithéâtre de l'Institut national des recherches biomédicales INRB. La cérémonie a été présidée par le directeur de cabinet adjoint de la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Michel Nyamajomi Meizo. Dans son intervention, le directeur de l'Institut Walhuth pour l'Afrique, INOHA, professeur Jean-Jacques Mouyembe, a expliqué l'importance de cette structure qui, selon lui, vise à former une masse critique des chercheurs et experts capables de faire face aux défis de santé publique. On l'écoute au micro de Stanislas Diomi.
En créant l'INOA, les autorités académiques ont voulu avoir un institut qui forme et prépare une masse critique des chercheurs, d'experts capables de faire face aux défis de santé publique, tant dans le secteur humain, animal, végétal et environnemental. Alors, l'acquisition du savoir, chers apprenants, vous êtes donc venus ici pour acquérir le savoir. La transmission du savoir ne se fait pas par un simple système de vases communicants ou les professeur, c'est le vase qui est plein. En face de l'étudiant, c'est le vase qui est vide. Et on met un tuyau et les connaissances passent comme ça, du professeur à l'étudiant, de façon passive. Ce n'est pas ça. Mais c'est plutôt un système, un processus où l'étudiant est au centre de tout et l'étudiant doit jouer un rôle actif. L'étudiant qui sera intéressant pour nous, c'est celui qui sait interrompre un professeur quand il parle, sait avoir des contacts, des interactions avec ses disciples, ses conditions pour créer donc ce climat d'échange.
Actualité internationale.
Les médiateurs dans le conflit entre Israël et le Hamas sont parvenus sous l'égide de l'Égypte à obtenir un accord pour la libération de 602 Palestiniens qui devaient être relâchés samedi en échange de 4 otages israéliens. L'organisation islamiste palestinienne a confirmé cet accord sur Telegram, précisant qu'il s'inscrit dans la première phase du cessez-le-feu avec Israël.
L'invité.
Consolat Abou Hendoua est l'invité de ce journal et le spécialiste programme chargé de la coordination du bureau terrain de l'UNICEF en RDC. Elle s'exprime sur la décision de l'UNICEF de s'installer physiquement au Maniema pour assister les enfants en situation de vulnérabilité. Consolat Abou Hendoua s'entretient avec Florence Kizalunga.
Madame Consolat Abou Hendoua, bonjour.
Bonjour.
UNICEF, nous vous voyons ces derniers temps, vous êtes visible dans la province du Maniema. Est-ce c'est le retour de UNICEF au Maniema?
Merci madame pour la question. Je ne peux pas dire que c'est le retour. UNICEF a toujours été au Maniema. UNICEF a appuyé le Maniema à partir de notre bureau de Goma. Pendant tout ce temps, il n'y avait pas un bureau physique de UNICEF au Maniema. Mais cela ne veut pas dire que l'UNICEF avait abandonné les enfants de Maniema. À partir de notre bureau de Goma, on a appuyé dans tous nos programmes de secteur dans lesquels nous appuyons. Et le Maniema était toujours au cœur dans toutes les activités de l'UNICEF. Mais maintenant, ce qui change, c'est quoi? Aujourd'hui, après l'analyse et la validation de notre plan de travail quinquennal qui va de 2025 en 2029, le Maniema, selon un critérium bien défini, a été ciblé comme une province où il faut la présence physique de l'UNICEF. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes ici avec toute une délégation pour venir voir la faisabilité et venir déjà voir les actions concrètes que nous devons mener pour pouvoir installer les bureaux ici au Maniema.
Vous appuyez de loin, maintenant vous voulez être proche et installer sur place. C'est-à-dire, vous avez trouvé qu'il y a nécessité. C'est quoi ce qui bouge beaucoup pour attirer UNICEF en ce sens?
En fait, comme je l'ai mentionné, il y a toute une étude qui a été faite, toute une analyse. Et la province du Maniema a été une province où on a vu beaucoup de vulnérabilités par rapport aux enfants. Par exemple, nous avons beaucoup d'enfants en malnutrition. Nous avons beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école. Il y a des problèmes d'accès à l'eau. Et toutes ces choses-là ont fait que l'UNICEF a trouvé utile de pouvoir se rapprocher beaucoup plus de la population de Maniema. Et c'est pour ça que, au lieu de continuer à pouvoir répondre aux besoins à partir de Goma, on a trouvé utile qu'on ait un bureau physique pour pouvoir interagir directement avec le gouvernement provincial du Maniema. Comme vous le savez déjà, c'est un programme de coopération entre l'UNICEF et la République démocratique du Congo. Et dans ce sens, ça nous permet de pouvoir être présents et de travailler conjointement avec le gouvernement provincial, avec les membres de l'Assemblée provinciale, sous l'égide du ministère du plan et la division du plan qui ont les titelles de la gestion du programme de coopération dans les provinces.
C'est dans quel domaine que vous allez intervenir? C'est toujours dans vos domaines habituels ou bien il y aura une exception pour la province du Maniema?
Généralement, l'UNICEF travaille autour de l'intérêt de l'enfant. L'enfant est au centre de l'intérêt. Tout s'articule sur les droits de l'enfant. Ça veut dire que l'enfant ait accès à une bonne santé, à une bonne alimentation, que l'enfant ait accès à l'eau potable, que l'enfant ait accès à l'ajustement lorsqu'il est né, que l'enfant puisse être vacciné et l'enfant soit protégé. Donc, les programmes habituels de l'UNICEF seront maintenus. Mais au-delà de ça, il y a toutes les questions transversaux, notamment les questions entre le travail avec les communautés, mettre les communautés au centre de nos interventions, le travail sur les questions de l'environnement, le travail sur les questions du genre, les questions des violences ou des questions des viols, tous ces aspects vont être pris en charge au niveau du Maniema.
La population du Maniema peut espérer qu'avec la présence physique de UNICEF au Maniema, vous allez aussi prendre en compte cette question des enfants zéro dose et non vaccinés. Ce sera vraiment une préoccupation de l'UNICEF.
C'est une priorité. Une des choses sur lesquelles nous avons trouvé qu'il y a des faiblesses au Maniema, exactement, ce sont les enfants non vaccinés. Et nous pensons que c'est maintenant ou jamais que nous devons y travailler. Et pour votre Auguste, nous avons déjà des équipes de consultants sur la communication qui sont ici dans le cadre de l'appui de la vaccination des enfants et spécifiquement sur les questions de la polio. Et donc l'UNICEF sera présent dans ces aspects là-bas. Nous allons travailler ensemble pour voir comment récupérer tous ces enfants pour qu'ils puissent avoir aussi accès à la vaccination comme tous les enfants dans le monde.
L'enfant est au centre de votre priorité. Pour que vos objectifs soient atteints, vous avez besoin de quoi?
Nous avons juste besoin que le gouvernement puisse nous accompagner. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Nous pensons qu'avec l'appui du gouvernement provincial, et nous l'avons senti, je ne peux pas ne pas dire un grand merci à son excellence, monsieur le gouverneur, avec tous les membres de son gouvernement et même les membres de l'Assemblée provinciale qui nous ont bien accueillis, qui sont prêts à pouvoir nous accompagner dans ce processus et pouvoir mobiliser non seulement les moyens, mais aussi les communautés pour pouvoir nous accompagner. C'est très important que les communautés qui bénéficient de nos actions puissent être au centre de tout ce que nous faisons.
Madame Consolata Bouendoua, je vous remercie.
Et c'est la fin de ce journal. Merci aussi à vous tous qui l'avez suivi. Un journal présenté par Noëlla Lozito et mis en onde par Billy Landry Betou.